Selon les nouveaux chiffres présentés dans la dernière édition du rapport annuel sur la faim dans le monde diffusé aujourd'hui par les Nations Unies, le nombre de personnes souffrant de la faim a chuté à 795 millions, soit une personne sur neuf qui est encore victime de la faim et de la sous-alimentation. Nous sommes aujourd'hui avec Madame Nathalie Trouba, statisticienne économiste, travaillant avec l'équipe responsable de la sécurité alimentaire au siège de la FAO à Rome. Madame Trouba, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les principales conclusions du rapport ?
795 millions de personnes souffrent encore de la faim, de sous-alimentation chronique, et ça représente une personne sur neuf, ce qui reste quand même une proportion assez importante. Et sur ces 795 millions de personnes, 98% viennent des pays en développement. Toutefois, une note positive, c'est que quand même ce nombre a diminué depuis 1990-92 et il a diminué de 212 millions de personnes, ce qui reste quand même une réduction de 21% et assez significative. En termes de réduction de la proportion de personnes sous-alimentées, la diminution était beaucoup plus significative puisqu'on a quand même une réduction de 44% entre 90-92 et 2014-2016. L'année 2015 est une année qui marque un tournant dans le cadre des suivis des objectifs mondiaux puisque c'est l'année de la fin du suivi de ces objectifs. Et nous avons deux principaux objectifs mondiaux. Il y a l'objectif 1, cible C des objectifs du millénaire pour le développement, qui consiste à réduire de moitié la prévalence de la sous-alimentation d'ici 2015 par rapport au niveau de 90. Et cet objectif a pratiquement été atteint pour les pays en développement, puisque la prévalence de la sous-alimentation est passée d'un niveau d'environ 23% en 90-92 à 12,9% en 2014-2016. Par contre, l'objectif beaucoup plus ambitieux de réduire le nombre de personnes sous-alimentées, qui a été adopté en 1996 lors du sommet mondial de l'alimentation, cet objectif n'a pas été atteint. 72 pays sur les 129 pays pour lesquels les prévisions sont fournies, 72 pays ont déjà atteint l'objectif 1, cible C des objectifs du millénaire pour le développement. Et sur ces 72 pays, 29 ont déjà atteint l'objectif beaucoup plus ambitieux de réduire de moitié le nombre de personnes sous-alimentées. Donc des résultats quand même assez marqués.
Pour mieux comprendre ces objectifs, comment ces chiffres ont-ils été calculés ?
Alors, la FAO se fonde sur une approche paramétrique. La prévalence de la sous-alimentation correspond à la probabilité qu'un individu sélectionné de manière aléatoire dans une population ait une consommation énergétique alimentaire qui est inférieure à ce dont il aurait besoin pour mener une vie saine et active. Donc, c'est un modèle de probabilité qui se base sur une distribution de consommation énergétique alimentaire et un seuil de référence qui correspond aux besoins énergétiques alimentaires minimum. En termes de représentation graphique, on pourrait dire que la surface qui se trouve en dessous de la distribution de consommation énergétique alimentaire et le seuil de référence correspond au pourcentage de personnes qui sont sous-alimentées. Cette approche est standard, elle est appliquée dans tous les pays, donc elle permet vraiment une comparaison des niveaux de prévalence par pays et aussi au cours du temps.
De nouvelles études présenteront un cadre détaillé de chaque région de la FAO. Pourriez-vous nous expliquer brièvement comment le nombre de personnes souffrant de la faim a évolué dans les différentes régions ?
Il y a de très grandes différences dans la concentration des personnes sous-alimentées au niveau des régions, puisque la plus grande partie des personnes sous-alimentées se concentrent en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, avec des concentrations de l'ordre de 27% à 35% en Asie du Sud, et des proportions qui ont augmenté aussi. Alors que d'autres régions ont vu cette contribution diminuer, et c'est le cas de l'Asie de l'Est, qui, elle, représentait 29% de personnes sous-alimentées en 90-92 provenaient de l'Asie de l'Est, et maintenant, cette part a diminué de 18%, donc vraiment des contributions très inégales. En termes de progrès vers les objectifs mondiaux, il y a aussi de très grandes disparités. La région d'Amérique latine et des Caraïbes a déjà atteint l'objectif très ambitieux de réduire de moitié le nombre de personnes sous-alimentées, alors que l'Océanie s'éloigne complètement des deux objectifs. L'Afrique a fait quelques progrès en matière de réduction de la proportion de personnes sous-alimentées, mais a vu quand même le nombre de personnes sous-alimentées augmenter au cours du temps. L'Asie a pratiquement atteint la cible des objectifs du millénaire pour le développement et a aussi considérablement réduit le nombre de personnes sous-alimentées. Donc entre les régions, de très grandes disparités et au sein des régions, il y a aussi de très grandes inégalités puisque certaines zones d'Afrique, donc l'Afrique du Nord a déjà atteint les deux objectifs internationaux en matière de lutte contre la faim, alors que l'Afrique centrale s'éloigne complètement de ses objectifs. En Asie, on a le même cas de figure. On a l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est qui a réalisé de très très bonnes performances puisqu'ils ont déjà atteint les objectifs du Sommet mondial de l'alimentation et de loin les objectifs du millénaire pour le développement. Et l'Asie du Sud, par contre, a réalisé quelques progrès en matière de réduction de la proportion de personnes sous-alimentées, mais ces progrès restent très lents.
Quels sont les facteurs clés qui ont contribué au succès des pays qui ont connu une avancée dans le domaine ?
La plupart des pays qui ont réussi à réaliser ces objectifs ont bénéficié d'une croissance économique positive, très forte, et aussi d'une stabilité politique, qui ont permis de mettre en place des politiques rationnelles de protection sociale, qui ont pu viser toutes les populations vulnérables. Et en outre, ces pays ont aussi bénéficié d'une volonté réelle de la part des politiques de mettre en place des politiques fortes en matière de lutte contre la faim, et ce malgré la croissance très forte de la population et aussi un contexte économique international peu favorable.
Le rapport fournit une analyse plus approfondie des facteurs qui ont empêché certains pays d'atteindre leurs objectifs. Quels étaient les principaux enjeux ?
Certaines régions d'Afrique, comme l'Afrique centrale, a fait face à des désastres naturels ou humains, ainsi qu'à une croissance de la production agricole qui a été très très faible, une croissance démographique qui a été très forte, et puis des mesures sociales qui n'ont pas été très adaptées. Donc tout cela a fait que les politiques de lutte contre la faim n'ont pas été très efficaces. En Océanie, c'est un autre problème. C'est le problème de l'échec en matière de lutte contre la faim est plus lié à l'insularité de ces pays. En effet, les petites îles du Pacifique importent la plupart de leurs produits qu'elles consomment et donc, de fait, deviennent très vulnérables aux chocs externes. En Asie du Sud, c'est un problème de distribution du revenu. Les populations les plus vulnérables n'ont pas vraiment bénéficié de la croissance économique qui a pu avoir lieu dans la zone.
À l'approche du programme de développement pour l'après 2015 et selon cette étude, sur quels aspects les décideurs politiques devraient-ils mettre l'accent pour réduire la prévalence de l'insécurité alimentaire dans leur pays ou leur région ?
La sécurité alimentaire doit être adressée du point de vue de toutes ses dimensions. Donc il n'est pas suffisant d'avoir seulement des disponibilités alimentaires, il est aussi important de pouvoir garantir un accès économique et physique à cette nourriture. Il faut qu'il y ait un accès aux conditions hygiéniques qui vont permettre une bonne utilisation des aliments. Et puis également que le corps puisse aussi être en mesure d'absorber les nutriments qui sont nécessaires à son bon fonctionnement. Et une fois que ces trois dimensions, donc la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation des aliments, une fois que ces trois dimensions sont réunies, il est important aussi d'en assurer la stabilité au cours du temps. Toutefois, dans ce rapport, on a quand même fait apparaître des facteurs communs. Il est important d'avoir un contexte économique favorable et puis aussi une stabilité politique qui permette de mettre en place quand même des mesures politiques efficaces en matière de lutte contre la faim. Il est important aussi de rendre les ressources productives. Parfois aussi l'ouverture au commerce mondial s'est avérée aussi un facteur positif dans cette lutte contre la faim. La mise en place de systèmes de protection sociale qui doivent être renforcés. Et puis aussi renforcer les initiatives régionales, telles que l'initiative qui a été adoptée en 2005 en Amérique latine et aux Caraïbes, visant la réduction de la faim. Cette initiative a été vraiment à l'origine des résultats très positifs que l'on a pu observer et a aussi donné naissance à une nouvelle initiative qui a été signée en janvier 2015, visant la réduction complète de la faim d'ici 2025.
Je vous remercie, Madame Trouba.
C'est moi qui vous remercie.